Pourquoi tu me regardes comme ça ?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio ?
J'aime bien dire qu'un festival, c'est un peu comme un grand livre qu'on rouvre chaque année. Les pages changent, les chapitres se réinventent, mais il reste cette même envie de s'asseoir côte à côte, de découvrir ensemble, de s'émerveiller sans prévenir. Cette année, le Chaînon Manquant écrit peut-être l'un de ses chapitres les plus précieux puisqu'il sera le dernier signé par Kevin Douvillez, celui qui, depuis plus de 10 ans, glisse des histoires sur scène et des émotions dans les gradins. Alors, on avait envie, avant que les lumières ne s'allument et que la fête commence, de prendre un moment pour en parler avec lui, tranquillement, pour comprendre ce qui fait la force de ce rendez-vous, ce qui le rend unique et ce qu'il laissera derrière lui une fois le rideau fermé. Kevin, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, la prochaine édition du
Chaînon... Merci pour cette présentation, je ne m'y attendais pas.
Les violons toujours, Maxime, c'est comme ça. La prochaine édition du Chaînon, ce sera du 16 au 21 septembre et son prologue du 12 au 13 septembre. On en parle dans quelques instants ensemble. Et puis ensuite, aujourd'hui, on vous emmènera du côté de Ménil, à la ferme Les Mille et Une Noisettes, une ferme pas tout à fait comme les autres, où Simon cultive la noisette et surtout l'envie de partager. Il nous racontera cette belle aventure et le programme de la journée porte ouverte qu'il prépare pour le 12 juillet. Je me suis dit que c'était un événement intéressant à vous présenter. Pas de chronique aujourd'hui, on se rapproche doucement de la fin de la saison. L'agité du local va bientôt faire une pause, le temps de recharger un peu les batteries et de préparer la suite. Et j'en profite quand même pour te saluer, Maxime, toi qui es là chaque jour aux manettes, dans l'ombre et dans la lumière à la fois. Tu es celui qui veille au grain, qui glisse les bons morceaux au bon moment, qui rattrape mes loupés quand je parle un peu trop vite ou quand je ne vois pas l'heure passer dans la journée. Comment est-ce que tu vas, Maxime ?
Bonjour à tous, et oui, c'est la dernière, ça passe trop vite. Et ça va super, et toi, Margot ?
Eh bien, ça va très très bien. On va tâcher de profiter ensemble de cette dernière avec toi. Et puis, bien sûr, bienvenue à l'auditeur de l'autre radio qui vient d'allumer la radio, peut-être sans trop savoir sur quoi il allait tomber. Eh bien voilà, c'est nous. Je sais que l'auditeur de l'autre radio n'est pas du genre à se laisser endormir. Il aime qu'on ouvre des portes et des fenêtres ensemble. Justement, aujourd'hui, c'est celle de la curiosité, de l'imaginaire et du concret en même temps. Je ne doute pas que l'on soit à la hauteur, puisque pour cela, j'ai avec moi Kevin Douvillez. Et oui, nous y voilà. On passe maintenant à l'entretien du jour.
Bah, tu écoutes quoi, là ?
Chut ! C'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio. Le festival Le Chaînon Manquant revient du 16 au 21 septembre à Laval pour sa 34e édition avec plus de 70 spectacles de théâtre, musique, danse, cirque et humour. C'est aussi une édition un peu particulière puisque ce sera la dernière programmée par toi, Kevin, je le disais tout à l'heure. Tu es directeur, co-directeur et programmateur du festival depuis plus de 10 ans. Je suis vraiment contente que tu sois avec nous pour en parler aujourd'hui. Pour commencer peut-être, comment tu présenterais Le Chaînon Manquant à quelqu'un qui ne le connaît pas encore du tout ?
Ah bah c'est assez simple, c'est simple et compliqué, c'est-à-dire que c'est d'un côté un festival, le Chaînon Manquant, c'est un peu la partie de l'iceberg la plus connue. En fait, il s'agit derrière d'un réseau de 400 salles de spectacle dans toute la France qui s'associent pour quoi ? Qui s'associent pour repérer des projets sur leur territoire, se les présenter, d'abord à un niveau régional et puis ensuite à un niveau national qui est le Chaînon Manquant. Et ensuite, tout simplement pour pouvoir choisir ces spectacles et les intégrer à leur saison sur la base d'un tarif unique pour tout le monde et sur des périodes qu'on a négociées. Et comme ça, on se met tous ensemble pour pouvoir faire tourner aussi ces projets avec une forme de cohérence géographique et économique aussi pour réunir et en fait chaque projet sur un territoire, le faire tourner, puis ensuite il passe à un autre territoire. Ça va vraiment quelque chose, une espèce d'efficience et une logique de diffusion de spectacles.
On le répète chaque année, c'est une richesse sur notre territoire de pouvoir accueillir un tel festival qui est un festival de programmateurs mais qui finalement est ouvert au public et propose des spectacles qui vont sans doute pour certains exploser ensuite mais à un tarif accessible.
Ouais, c'est ça, exploser ou pas d'ailleurs, parce que quand on parle d'explosion, on va surtout parler de musique ou alors d'humour. On n'explose pas réellement en théâtre ou en danse, ça reste tout à fait. Mais en tout cas, ça va leur permettre d'avoir d'ailleurs les plus belles réussites au Chaînon, c'est plutôt sur des spectacles un peu confidentiels qui, par leur simple passage au festival, va générer 80, 100 représentations tournées pendant 2 ans, 3 ans et leur permettre aussi de continuer à créer sans forcément de médiatisation ou de popularité sur les réseaux sociaux.
La 34e édition s'annonce riche. Malgré un contexte budgétaire particulier, qu'est-ce qui a guidé tes choix de programmation cette année ?
Ouais, c'est sûr. Bon, bah, c'est vrai qu'on peut peut-être le rappeler rapidement pour vos auditeurs. comme si je suis nos.
On est voisins.
et puis on est partenaires aussi.
Exactement. Ouais.
Bon, en tout cas, oui, effectivement, on a subi le désengagement total de la région des Pays de la Loire, qui était notre principal financeur. Donc, du jour au lendemain, on a perdu un cinquième de notre budget, ce qui était assez marquant, ce qui était assez bousculant. Alors, il a fallu trouver des solutions. Nous avons trouvé des solutions. Nous, l'objectif était d'un côté de maintenir les emplois. On est une toute petite équipe, on est 5 personnes. Ça, on a réussi à le faire. Et puis, c'était aussi de conserver une proposition artistique conséquente. Parce qu'il y a un vrai enjeu de pouvoir présenter un maximum de spectacles à nos adhérents. Parce que sinon, si l'offre artistique n'est pas assez présente et pas assez fournie, ben, assez légitimement, nos adhérents peuvent dire bah, je viens plus au Chénon parce que je vais plutôt aller privilégier, je sais pas, Avignon ou autre, etc. Et on a moins d'adhérents. Et donc, à ce moment-là, on a moins de spectacles achetés. Et il y a un cercle ou un circuit vertueux qui disparaît. Donc, du coup, on s'est battu pour vraiment maintenir. Alors, la chose principale, c'est qu'on va supprimer le Square de Boston. On avait un village Boston avec un chapiteau, un bar, etc. Donc, malheureusement, on a fait le choix de supprimer cet endroit de convivialité pour pouvoir garder 65 spectacles. Généralement, on est aux alentours de 70, on était à 74 l'année dernière, donc on a 9 spectacles en moins quand même, mais tout de même 65 spectacles, grosso modo quand vous regardez le catalogue, bon, c'est imperceptible, je pense, au regard quand on le compare aux éditions précédentes. Et puis bah, ça nous a amené en fait à devoir emprunter d'autres terrains. On va être un peu plus présent dans la ville en fait en termes de spectacles, c'est-à-dire qu'on aura plus de spectacles de rue, des plus grandes formes qui vont être plus visibles et qui vont réunir plus de monde aussi, on l'espère en tout cas, dans la rue. Et puis on investit aussi un peu plus des structures lavalloises. C'est vrai que le 40 nous a vraiment ouvert les portes, nous a dit bah venez. Donc c'est 2-3 salles qu'on va occuper pour pouvoir présenter des spectacles. Le théâtre aussi nous a ouvert les portes, on va installer nos bureaux là-bas et exploiter bien évidemment leurs 2 salles. Et voilà, donc c'est une mutation qui est en train de se passer, mais je pense dans le bon sens, comme si sans forcément qu'on le souhaite, on va avoir quelque chose de plus raisonné, et peut-être finalement de plus humain.
Quand on parle du Festival du Chénon, on parlait déjà de parcours. Donc finalement, pour l'expérience du spectateur, ce sera toujours la même chose. Il va naviguer entre plusieurs salles et il devra faire sa programmation en amont pour être sûr de ne pas manquer les spectacles qu'il souhaite voir.
Oui, clairement, l'aficionado du Chénon, je pense qu'il est déjà habitué de façon d'aller à un spectacle, enfin de salle en salle et de spectacle en spectacle. Je ne suis pas sûr que le Square de Boston ou ce chapiteau en fait, qui était au cœur de la ville en fait, était fréquenté juste, enfin en tout cas que les gens venaient juste dans ce chapitre là. C'était un endroit de rencontre, c'était un endroit de etc. Mais on en aura d'autres, on aura le 6x4 parce qu'on aura des soirées, alors que le 6x4 on avait plutôt des séances dans l'après-midi. Là ça va être vraiment, on va retrouver les soirées au 6x4 qui sont quand même, quand même agréables parce que le lieu s'y prête terriblement. Et puis on va rebooster aussi un petit peu le hall du théâtre. On aura 3 associations qui vont récupérer le bar. On va aussi s'installer sur le parvis, donc on va créer d'autres endroits un peu de chill, d'ambiance et de fête.
Tu as parlé tout à l'heure de la diversité des disciplines et des formes artistiques présentes, encore une fois, pour cette nouvelle édition. Est-ce qu'il y a une couleur particulière à cette programmation ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire que on a une sorte d'équilibre de disciplines qu'on fait qui reflète les saisons culturelles de nos adhérents ou qui correspond aussi à ce qu'ils peuvent rechercher. On a un peu plus de musique parce que c'est peut-être un peu plus dur de repérer la musique, ils ont besoin d'en voir un peu plus pour pouvoir vraiment se faire un avis. Donc y a pas, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas réellement de tendance en fait disciplinaire, même si depuis quelques années, je pense que les Lavalois l'ont remarqué, on appuie sur l'humour avec un samedi très très humour avec ce moment principal qui est cette soirée humour au théâtre présentée ces 3 dernières années par Alex Vizorek. Cette année ça sera Alexis Rossignol qui sera le meneur de revue et associé à 3-4 spectacles d'humour. Voilà, on a un peu cette spécificité, mais au-delà de ça, ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment quand on a sélectionné qu'on se rend compte des tendances, notamment des thémaniques ou de la sensibilité qui se dégage. Et c'est vrai que cette année j'ai l'impression qu'on est on est sur une tendance un peu de mobilisation, de mobilisation et en même temps de joie. Comme si, avec tout ce qu'on est en train de subir, et pas que le chaînon, notre nombril et nous, le milieu de la culture, c'est vraiment tout le monde dans tous les compartiments de la vie et etc. Je crois qu'on a besoin de se remettre à la joie quand même, quoi. Et la joie est très présente dans cette édition.
Quand tu parles de mobilisation, alors je ne sais pas si mon interprétation est juste, mais quand je vois le visuel de cette année, moi je le trouve vraiment magnifique. J'aime toujours bien faire un clin d'œil au visuel parce que c'est une identité, c'est une couleur, c'est quelque chose qui interpelle le spectateur. Comment est-ce qu'il a été pensé cette année? Est-ce que justement ces nouveaux défis sont représentés?
Oui, totalement, clairement. Mmh. Il y a un petit manifeste dans ce visuel. Pour moi, c'était l'idée directrice. C'était vraiment la pyramide humaine. Parce qu'en fait, le chaînon, c'est un peu ça. C'est une forme de pyramide humaine. Alors, ce qui est drôle, c'est que les jeunes, depuis quelques années, il y a quand même une mode de la pyramide humaine quand on fait les couillons et quand on fait la fête, etc. Il y a aussi des traditions de pyramide humaine. Moi, je suis tombé sur une pyramide humaine en Catalogne l'été dernier, où là c'était juste hallucinant, mais qui était une tradition vraiment ancestrale quasiment. Et donc voilà, cette idée de pyramide humaine m'est venue, voilà, de l'envie de se dire bah ouais, en fait on arrive à monter et à surpasser les obstacles en fait en se montant les uns sur les autres, en tout cas en s'appuyant, en s'aidant. Et voilà, on trouvait que cette image là était forte. On l'a associé en fait à notre actualité, c'est-à-dire le danger qu'on a subi cette année et cette capacité de rebond ou de résilience qu'on espère être capable d'avoir.
Chaque année, il y a également le prologue du Chaînon qui a lieu quelques jours avant le festival. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'idée derrière ces quelques jours qui précèdent justement le début, l'ouverture du festival?
Le prologue du Chaînon, qui a vu le jour, je crois, maintenant, il y a 7-8 ans, l'idée était de se dire, Chaînon Manquant, c'est quand même très lavallois. L'idée était d'essayer de sortir un peu de ça, parce que nos partenaires nous y invitaient aussi, notamment le département de la Mayenne et l'Aglo aussi. Et puis aussi, on avait très, très envie de dire, on n'est pas juste là et d'aller à la rencontre. Donc, et puis moi, j'aimais bien cette idée d'un échauffement avant le festival. Et en fait, assez naturellement, ce moment-là, c'est enraciné dans nos pratiques, parce que nos partenaires, notamment effectivement la ville de Bonchamp, Saint-Berthevin, Cran depuis 2 ans, 3 ans, et maintenant la ville de Changé, qui a un partenaire historique, en profitent en fait pour ouvrir leur saison et de prendre la parole avant que le chaînon arrive. Donc je trouve ça symboliquement vachement bien, vachement fort. Aussi parce qu'on met en place un truc qui me tient vraiment à cœur et que je trouve qui est super dans l'esprit du chaînon, c'est un bus en fait qui va véhiculer une quarantaine, cinquantaine de personnes en fait dans le département de spectacle en spectacle. Donc vraiment chouchouter ces boulimiques de spectacle, comme il y en a plein au chaînon qui vont de spectacle en spectacle, là les chouchouter, les amener et leur faire découvrir grâce à l'office de tourisme, de leur faire découvrir des choses soit qu'ils ont oublié, soit dont ils n'avaient pas connaissance en fait sur leur propre territoire. Donc ça fait des espèces d'escapades complètement folles et drôles. Enfin, Mathieu qui a l'office de tourisme et se régale à chaque année et nous régale en fait des inventions qu'il peut trouver et des visites qu'il peut insérer dans cette espèce de parcours artistique. Donc c'est des moments de vie à chaque fois ultra forts, ultra intenses, et puis des spectacles en fait qu'on a programmés dans l'année précédente ou dans les années précédentes qui ont été un petit peu des réussites, et c'est une manière de se remettre à l'impage, un peu comme un résumé des épisodes précédents en fait des séries, un truc un peu comme ça. Mais et voilà, et donc ouais, ça me tient vachement à cœur. C'est un truc qu'on porte un peu à bout de bras parce que le financement en fait est ce qu'il est, enfin je pense que nos partenaires publics font ce qu'ils peuvent, mais tout le monde s'y met, nos partenaires, nous on y met, c'est vrai que c'est le chaînon qui paye le quart, et ça fait vraiment des moments de vie très forts.
On a parlé de la diversité des publics, autant c'est une programmation qui s'adresse finalement autant aux professionnels qu'aux familles. Est-ce qu'on peut jeter un petit coup d'œil ensemble sur la programmation? Peut-être, est-ce que tu as comme ça un spectacle qui te vient, qui serait particulièrement étonnant?
C'est compliqué sur les 65. En plus, moi, j'ai vraiment envie de ne pas avoir de préférence. Ouais. Bon, j'en ai forcément. Mais oui. Alors, on va le faire de manière hasardeuse, par
c'est
exemple.
Ça, exactement.
Allez, on y va. Tu me dis stop.
Stop.
Ok. Ah, Donc là, on est sur une page, on est sur la page 24 et 25 du programme. Et là, on a quatre spectacles. Heavy Motors, Histoire de la fille qui ne voulait pas être un chien, In Limbo et Jazz Magique. Donc c'est rigolo, il y a un beau panachage. Alors Heavy Motors, bon, ça fait partie un peu de mes chouchous là, je vous l'ai dit.
Bon.
Là, pile poil. En fait, c'est déjà une compagnie qu'on a accueillie il y a 8 ans maintenant, sur un spectacle qui s'appelle Call Off. C'est une compagnie bretonne, repérée là-bas en Bretagne. Et leur spectacle n'avait pas du tout marché, malheureusement. Que j'adorais, mais trop barré, un peu trop absurde pour pouvoir plaire aux... Et entre temps, depuis, ils ont fait ce spectacle Heavy Motors qui est devenu une espèce de gros succès en fait de spectacle de rue. Il s'agit d'une pièce chorégraphique pour trois danseurs un peu pieds nickelés avec une voiturette sans permis. C'est des trois pieds nickelés qui vont perdre le contrôle de la voiturette sans permis, qui va se retrouver à bouger toute seule et ils vont courir après. Enfin, il y a un truc très cinéma muet, absurde, mais en même temps avec l'esthétique d'aujourd'hui, avec une voiturette tunée, eux des fringues pas possibles, fluo, etc. Et c'est génial, c'est jouissif. Histoire de la ville qui ne voulait pas, de la fille qui ne voulait pas être un chien, c'est un jeune public très 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 tendre, puisque ça raconte l'histoire d'une jeune fille, ou plutôt d'un homme qui vit seul avec sa fille et qui est en train de perdre la vue, une cécité progressive qui est en train de s'installer, et sa fille va faire ce qu'elle peut pour pouvoir garder la vie quotidienne avec ce père qu'elle chérit. Et donc il y a une histoire qui est racontée par une comédienne et un comédien dans une scénographie faite d'ampoules, et c'est cette histoire qui nous est racontée, bouleversante, parce que bah, ils s'enfoncent effectivement petit à petit dans le drame et ils essayent de le surnager, etc., avec, je vous rassure, une belle résolution, mais un récit très très poignant. Donc là, on est vraiment sur du théâtre. In Limbo, on est aussi sur du jeune public, mais plutôt pour du théâtre ado. C'est du théâtre ado. C'est une compagnie qui s'est évertuée pendant plusieurs années à récolter la parole en fait de collégiens, et de cette parole de collégiens, ils en ont rédigé en fait un journal intime qu'une jeune fille aurait pu écrire entre ses 10 ans et ses 13 ans, et elle va raconter ce journal intime en fait, et on va assister en fait à cette progression essentielle d'une jeune fille en fait entre 10 ans et 13 ans, et ce qu'elle peut le ressentir, ce qui peut être troublant. Et c'est un super spectacle déjà, parce qu'en fait on apprécie, il y a une performance vraiment notable et constat, mais aussi parce que elle permet d'un côté en fait à ces préadolescents, à ces adolescents de se sentir moins seuls dans la vie, mais aussi elle permet notamment moi qui suis papa par exemple d'un jeune garçon de 13 ans, bah, de mieux comprendre ce qui est en train de se passer et d'avoir des codes pour pouvoir mieux l'accompagner en fait dans l'adolescence. Voilà, et un spectacle ça sert aussi à ça, à donner des clés pour pouvoir mieux vivre ensemble. Et puis pour terminer, Jazz Magique, bon bah tout est dans le titre, c'est tout bête, c'est un magicien et un musicien qui s'associent pour un spectacle. Un va faire des tours de cartes, l'autre va jouer de la musique et du jazz, et puis ça va déraper ou pas, et puis ça va parler. C'est vraiment pour une toute petite jauge, c'est pour 50 personnes, c'est les deux personnages sont incroyables. Enfin, en fait, c'est pas des personnages, c'est eux dans la vraie vie. Ils sont drôles, ils sont truculents. Les tours sont un peu hallucinants. Le musicien nous amène aussi bien dans de la musique populaire que dans la musique un peu plus pointue. Mais ça, sans démonstration. Et c'est très tendre.
J'en profite pour rappeler à l'auditeur qui nous écoute qu'il y a plusieurs représentations pour chaque spectacle. Effectivement, j'allais oublier de le dire. Donc souvent, si on en loupe une, on peut dans la même journée, pas toujours la même journée, même des
fois le lendemain. Non, c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il y a quand même un bon nombre de ces spectacles jouent deux fois, voire parfois même trois fois dans la journée, parce que c'est vrai quand on est sur des jauges réduites, vu la demande qu'il y a et la fréquentation qu'il y a, on multiplie les dates.
J'ai pu le dire tout à l'heure, c'est ta dernière édition en tant que programmateur. Alors tu vas tourner une page après cette prochaine édition. Qu'est-ce que toi t'en gardes? Qu'est-ce qui compte pour toi sur ce projet que t'as porté quand même?
Pour moi c'est clairement ma meilleure expérience professionnelle. Ça a été une histoire incroyable qui m'a amené à, je crois que j'ai fait le compte, je crois que je suis à plus de le chaînon m'a permis de voir quasiment plus de 6000 spectacles au total sur 10 ans, d'en programmer quasiment 800. et puis de rencontrer des gens incroyables. En fait, le réseau, c'est salle de spectacle, c'est surtout des gens derrière. C'est, et puis c'est surtout aussi des femmes, parce que, et ça c'est important de le dire, c'est, on est le seul réseau dont les membres sont majoritairement des femmes, alors que la culture en France a souvent été et longtemps dirigée par des hommes, donc ça c'est important de le dire. Et j'ai rencontré des gens incroyables, des gens qui... parce que nous, nos salles, c'est pas la scène nationale de Bordeaux, c'est pas le grand théâtre en fait d'une grande ville. Non, généralement c'est des théâtres vraiment de proximité, des théâtres qui sont situés dans une zone périurbaine ou en milieu rural. En fait, c'est des gens qui ont vraiment besoin de se retrousser les manches pour faire venir du public et dire bah, intéressez-vous à la culture, venez, etc. Qui se battent au quotidien pour faire venir des gens, ou alors voilà, qui se battent aussi pour faire des actions culturelles dans les endroits empêchés, dans des EHPAD, dans des écoles, etc. Donc vraiment, c'est des gens assez incroyables. Et non, ça a été un régal. Mais je pense qu'il faut partir. À un moment, il faut partir. Voilà, en fait, clairement, je pourrais continuer pendant 4-5 ans sans souci. Mais je me suis dit, il faut partir avant que ce soit trop tard. Enfin, avant d'être moins enthousiaste, d'être moins. Voilà, je l'ai toujours, peut-être que ça s'entend, mais puis voilà, ça fait 10 ans, 11 ans, je trouve qu'un autre regard fera du bien aussi au chaînon. Peut-être que je commence à trop connaître les adhérents et donc choisir des spectacles qui vont leur plaire. Peut-être que dans le rapport qu'on a avec les adhérents, il faut aussi choisir des gens qui vont, des spectacles qui vont un peu les étonner, les bousculer. Et puis moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs aussi si j'y suis.
La force du festival, comme un peu tous les festivals et typiquement les festivals associatifs, c'est aussi le bénévolat. C'est important de repréciser. Chaque année, le Chaînon accueille, accompagne des bénévoles pour faire vivre ce festival. Est-ce que cette année, vous recherchez encore des bénévoles ?
Oui, on recherche encore. Enfin, je veux dire, on en a pas, parce qu'en fait, on a une communauté qui est dingue, qui est folle. Enfin, et ça, c'est dans quand je parle de ma meilleure expérience professionnelle, c'est aussi la rencontre avec cette communauté de bénévoles. Ils sont, alors, au total, on est autour de 220-230, ça monte à 250 bénévoles par an. Mais il y a une vraie communauté de 150 ultra fidèles qui viennent à tous les rendez-vous qu'on peut faire et qui et sont vraiment, alors, beaucoup de retraités. Et j'ai appris à les connaître. C'est génial, quoi. Ils sont adorables, donc c'est drôle parce que à la dernière, etc., on... pour se marrer, c'était une blague en fait. J'aurais dédicacé le programme, mais à chaque fois en fait, j'étais capable de, parce que je commençais à les connaître maintenant au bout de 10 ans et à leur conseiller des spectacles. C'est des boulimiques, c'est des gens qui sont ultra concernés par la culture, par le spectacle, et j'ai commencé à sentir un peu leur sensibilité. Donc c'est un croisement de sensibilité dingue, cette communauté. Ce qui est drôle en plus, c'est que c'est pas des gens qui se côtoient toute l'année à Laval. Non, ils se voient juste à l'occasion pour le chaînon, quoi. Mais et ça, c'est sentir cette chose là c'est être porté, c'est inimaginable.
J'imagine qu'il y a des auditeurs qui nous ont rejoints en cours de route. On parle bien du festival Le Chaînon Manquant qui aura lieu pour la prochaine édition du 16 au 21 septembre. Alors pour cet auditeur qui vient seulement de nous rejoindre pour qu'il écoute déjà cette émission en podcast, qu'est-ce que toi tu auras envie de lui dire s'il n'a jamais franchi encore la porte d'un spectacle du Chaînon ? Lui dire bah là c'est le moment d'aller regarder le programme et de bloquer des dates.
Ouais, alors peut-être la première chose, c'est de pas avoir peur. C'est-à-dire quand on voit le programme, quand on voit 65 spectacles, on se rend compte qu'on connaît rien. On referme le programme et on se dit bah je passe à autre chose, c'est pas pour moi. Bah si, c'est pour toi. Mais n'aie pas peur, c'est-à-dire prends des trucs au hasard. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à découvrir la musique. Bon, je suis d'un autre siècle, peut-être. Moi, quand j'ai commencé à découvrir la musique, en fait, il n'y avait pas les Spotify, Deezer, etc., machin truc. La musique, en fait, c'était une prise de risque. Il fallait acheter l'album, en fait, ou alors écouter, lire Rock and Folk ou Les Inrecuptibles, écouter la radio. Mais à un moment donné, il y avait un acte d'achat, il fallait oser. Et ben moi, j'ai osé, quand j'avais 13, 14 ans, 15 ans que j'ai commencé, etc., j'ai osé acheter mes premiers albums et je l'ai fait. Parfois en écoutant effectivement à la radio, etc., mais parfois tout simplement en fait parce que la pochette me plaisait. Donc là, feuilletez, regardez s'il y a un nom qui vous plaît, un nom de spectacle, une photo, etc., allez-y, vous le regretterez pas. On fait en sorte justement que les tarifs soient pas trop élevés. On est sur entre 6 euros les moins chers et puis bah, allez, 15 euros pour un triple plateau musique ou un spectacle ou le plateau humour. Voilà, lancez-vous. Je vous le garantis, je pense que vous allez prendre goût.
L'étonnement n'est pas une prise de risque. Merci beaucoup Kevin d'avoir été avec nous, d'avoir passé ce moment avec nous. L'ensemble des programmes est déjà disponible
Exactement, tout est dévoilé. Il y a une application sur les smartphones, sur le site du Chaînon, bien évidemment. Sur le site du Chaînon, vous avez la programmation en ligne, mais vous avez aussi la possibilité de télécharger le programme, qui est voilà, avec un classement alphabétique des spectacles, un descriptif, texte, une photo, enfin, et puis un lien pour voir les vidéos. Donc, vous avez tous les outils pour pouvoir, mais n'hésitez pas à aller voir 2-3 spectacles comme ça. Faites-vous une petite journée marathon, comme si vous étiez dans la peau d'un programmateur ou d'une programmatrice de salle, et ben peut-être une vocation qui peut s'éveiller.
Merci beaucoup Kevin, merci beaucoup. Et puisqu'on parlait du festival, on va justement écouter Oscar Les Vacances qui sera programmé au Chaînon Manquant. Vous pourrez le retrouver sur la scène du 6x4 le mercredi 17 septembre à 23h50. Voilà un petit avant-goût, c'est son dernier single sorti aujourd'hui. On écoute Au Secours Les Vacances.
Et voilà, ça y est. C'est les vacances d'été. Super.
Je vais pas voir mon amoureuse pendant 2 mois. Je dis mon amoureuse mais elle me connaît pas. Je l'attendais tous les soirs devant le collège. Je lui ai jamais parlé donc elle m'a jamais têche. Tous les jours la belote avec mamie. Sieste obligatoire sur Radio Classique. J'ai quand même récupéré son 06. Je lui écrirai jamais comme je suis trop timide.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est les vacances.
Déjà 2 semaines que je suis chez mamie gâteau. Ici rien d'autre à lire que Tintin au Congo. Si seulement elle était ici, ce serait beaucoup mieux, plus belle la vie. Je lui ai finalement fait un texto. J'ai eu du mal à trouver les bons mots. Alors j'ai juste écrit salut. Elle m'a toujours pas répondu.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais c'est les vacances.
J'avais failli venir te parler pendant la boum de fin d'année. Aujourd'hui c'est les vacances, mais j'attends déjà la rentrée pour la retrouver dans la classe d'après, pensant qu'en 2 mois j'aurais mué et qu'elle me verrait fort et accompli, prêt à tout pour elle, prêt à tout. Et on partirait aux vacances d'après dans un TGV, sans dire aux parents qu'on se marierait à Saint-Tropez et qu'on reviendrait jamais,
jamais.
C'est déjà septembre, moi j'ai pas mué. On est déjà le jour de la rentrée. J'ai pris mon courage à deux mains pour lui offrir un petit dessin. J'ai marché lentement jusqu'à elle. Elle m'a regardé, moi j'ai regardé le ciel. Je lui ai dit bonjour et j'ai rougi. J'ai gardé le dessin et je suis reparti.
Salut. Ouais, excuse-moi, il y a un mec un peu chelou qui m'a envoyé un message cet été. Il a signé Oscar Les Vacances. Et comme t'es un peu chelou, je me suis demandé si c'était pas toi par hasard.
Non.
On part maintenant à la rencontre de Simon Ossems, propriétaire de la ferme Les Mille et Une Noisettes à Ménil en Mayenne. Alors, il ouvre ses portes le 12 juillet pour une journée conviviale entre visites, marchés de producteurs et spectacles. Bonjour Simon, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, pour commencer Simon, est-ce que tu peux peut-être nous raconter comment est née la ferme Les Mille et Une Noisettes et ce qui t'a donné envie de te lancer toi dans cette aventure ?
Je me suis installé sur la ferme de la Coutemilière, donc à Ménil, en 2023, mai 2023. Et il y avait déjà 22 hectares de noiseraies de planter, donc des noisetiers, pour produire des noisettes. C'est plutôt une opportunité qu'un rêve ou un souhait professionnel à l'origine. Et la ferme était belle et puis il y avait un beau potentiel. Donc avec ma compagne, on a décidé de s'y installer. Et puis donc depuis 2024, on a investi dans des machines pour pouvoir trier, stocker les noisettes, les calibrer et les transformer sur la ferme. Et puis tout récemment, on a adopté le nom des Mille et Une Noisettes.
On va avoir l'occasion de visiter ta ferme le 12 juillet. Et alors, je crois que ta noiseraie, c'est une ferme assez unique sur le département.
Pour le moment, c'est la seule noiseraie productive en Mayenne. Les arbres ont été plantés il y a entre 16 et 17 ans. Il y a peut-être eu des plantations dont j'ai pas eu vent en Mayenne, mais plutôt dans les dernières années, donc les arbres sont sûrement pas productifs.
Alors je le disais, donc tu ouvres tes portes le 12 juillet prochain. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est l'esprit de cette journée-là? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec le public qui viendra à ta rencontre?
L'idée de la porte ouverte, c'est principalement qu'on accueille le spectacle de Nicolas Mérieux, qui est un humoriste qui nous fait l'honneur de venir jouer son spectacle à la ferme. Pour ceux qui souhaitent découvrir qui est Nicolas Mérieux, vous pouvez aller chercher sur YouTube les chaînes Farm Tour et puis La Barbe. On en a profité pour organiser une ferme ouverte pour pouvoir pour montrer ce qu'on fait. Et puis, on fait un petit marché de producteurs en même temps. Donc, il y aura des producteurs de toute la Mayenne et puis des artisans.
Il sera également possible de se restaurer sur place et puis de passer la soirée sur place, puisque le spectacle commence à 20h30.
C'est ça. Donc, c'est un format de plutôt fin d'après-midi et puis soirée. La ferme ouverte commence à 17h avec le marché de producteurs. Et ensuite, le spectacle, comme tu l'as dit, commence à 20h30. Et puis après, il y aura une buvette sur place avec de la bière, avec une bière locale, donc l'Osmi, qui est faite pas loin de Laval. Et puis, on continuera les festivités en fonction des gens qui souhaitent rester avec nous.
Et alors, ce qu'on peut préciser, Simon, c'est que cette ferme ouverte, c'est l'occasion d'échanger avec toi sur les valeurs que tu portes et ta manière de travailler.
La ferme est en conversion à l'agriculture bio depuis mai 2023, donc ma date d'installation. Et on fait aussi de l'engraissement de bœufs, donc on engraisse des bœufs sous les noisetiers. On reçoit des bœufs jerseyais, donc qui viennent d'élevage laitier en Mayenne. C'est une race laitière et historiquement, les producteurs de cette race ne savent pas quoi faire des mâles. Donc on essaye de récupérer ces mâles-là pour pouvoir les valoriser. Et puis ensuite, donc de 4 mois à 14 mois, nous on les reçoit à 4 mois, et jusqu'à 14 mois, ils peuvent pâturer dans la noiseraie. Et puis après, on a des prairies pour les engraisser. Et donc c'est très complémentaire avec la culture de noisetiers, parce que ça nous évite des passages de tracteurs pour entretenir l'herbe, notamment. Mais aussi, ça fertilise, et puis ça fait un revenu complémentaire, ce qui stabilise un peu l'économie de la ferme.
Oui, puisque tout ça, ça représente aussi des défis.
Oui. Nous, on met beaucoup de choses en place sur la biodiversité. Voilà, on est conscient que nos manières de produire, elles ont des impacts négatifs, même quand on est en bio, quand on fait des cultures ou qu'on broie l'herbe, on a un impact sur la biodiversité. Donc, on essaye d'en être conscient et puis de trouver des solutions pour avoir l'impact le plus raisonnable possible. Ouvrir notre ferme, ça nous permet de montrer qu'il y a des moyens de produire différents, que ça peut fonctionner et puis que c'est aussi que voilà la biodiversité, l'environnement, ça peut aussi être un plaisir. C'est pas une charge en tout cas pour nous. C'est quelque chose qui nous porte et qui nous fait vivre de pouvoir essayer d'être le plus vertueux à ce niveau-là. Ouvrir la ferme, c'est pas forcément un défi, enfin, on espère pas mal de monde, on a déjà fait un peu de communication à droite à gauche, et puis c'est pas un défi, mais c'est un souhait de montrer comment on travaille, et puis de pourquoi pas sans être prétentieux faire naître des vocations futures, parce qu'on manque d'agriculteurs aujourd'hui, on manque de repreneurs pour les fermes, on a besoin de personnes qui reprennent des fermes pour pouvoir faire vivre les territoires ruraux, notamment en Mayenne.
Bien, en tout cas, merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous. Je rappelle la date du rendez-vous que tu nous donnes, la porte ouverte de ta ferme, les 1001 noisettes à Ménil, aura donc lieu le 12 juillet. Merci beaucoup.
Merci à toi.
L'agité du local sur l'autre radio. Et avant de refermer cette émission, je vais laisser le soin à Maxime de choisir le dernier morceau. Maxime, dis-nous un peu, qu'est-ce qu'on écoute pour finir en beauté?
J'ai choisi de vous faire écouter ma musique préférée, celle qui m'accompagne depuis toujours et que j'avais déjà partagée lors de ma première émission. Il s'agit de Summer, une magnifique composition de Joe Chassis, bien sûr.
Bah tu écoutes quoi là?
Chut, c'est la JT du local. Ça me détend les neurones.
Et c'est sur l'autre radio.
La JT du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Kevin Douvillès d'être venu à notre micro. Merci à Simon pour ses quelques mots sur sa ferme. Et puis merci à toi, Maxime. Qu'est-ce qui nous attend sur les ondes ensuite?
L'émission de la soirée est Eldorado à 19h. C'est une émission de radio consacrée aux musiques folk, rock, produite par Pierre Lemarchand.
Avant de se quitter, je voulais te dire un grand merci, un vrai merci, Maxime, pour tout ce que tu as apporté cette saison. C'était vraiment précieux de passer ces mois avec toi à travers nos micros. Et le temps d'antenne, tout ne se perçoit pas toujours, mais dans les coulisses, où là, dans le studio de l'autre radio, il se tisse des liens profondément humains et bienveillants, des moments riches, des discussions, des rires qui font partie de ce qu'on construit ensemble. T'as contribué à faire grandir cette émission, à la rendre plus vivante, plus simple, plus belle. Merci pour ta présence et ta bienveillance, et surtout tes idées.
Alors, merci à toi aussi, Margot. Merci de m'avoir supporté pendant ces 6 derniers mois. Pour les auditeurs qui nous écoutent, sachez que derrière cette émission, Margot reste toujours une personne formidable. Elle est remplie de bienveillance et de positivité. Margot fait toujours le maximum pour que chacun se sente bien à l'autre radio. Que ce soit avec moi, les stagiaires ou les collègues, elle mérite tout le bonheur du monde. Oh. Sinon, j'ai adoré vivre cette aventure chez votre radio, une expérience que je n'oublierai jamais. Et pour finir, je n'ai qu'un mot à vous laisser. Croyez en vos rêves. C'était Maxime le Conquérant.
Merci Maxime. Moi, je vous dis à demain pour la toute dernière JT de la saison. C'est le grand format. Ce sera avec David Tessier, alias Tess, l'un des musiciens et passeurs les plus importants de la scène lavalloise. On prendra le temps de revenir sur son parcours, ses souvenirs et tout ce que la musique raconte de nous, d'ici et de l'époque. D'ici là, gardez un petit coin de curiosité et de plaisir pour demain. C'est la dernière. Autant la savourer. S'il vous plaît, faites-le bien.
Bon, bah, c'est fini.
Tout de même, ça passe vite.